Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinne L. En terre de couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Gustave Caillebotte, peintre français, Paris 1848, Le Petit Gennevilliers 1894. Méconnu du public, vilipendé par l'Académie des Beaux-Arts à son décès, délaissé par les institutions, Gustave Caillebotte n'en a pas moins côtoyé le milieu impressionniste, lui apportant un soutien inestimable. Mécène de ce mouvement, collectionneur, peintre lui-même, architecte naval, régatier, botaniste et philatéliste, Caillebotte possède plus d'une corde à son arc. Sa peinture est égale à ses passions, ses sources d'inspiration, la ville, les jardins, les scènes nautiques et de la vie moderne. Citadin, il est le représentant du monde urbain, des rues, des balcons, des fenêtres à la vue plongeante, doté d'une perspective toute personnelle. C'est aussi le peintre du monde ouvrier, des scènes de canotage, de nature morte, et de quelques nus féminins et masculins, à l'instar de Frédéric Basile. Généreux envers ses amis impressionnistes, il n'hésite pas à les aider, les soutenir, en leur achetant des toiles. Parfois, au-delà de leur juste prix et en organisant des expositions. Caillebotte les accompagnera à 5 de leurs manifestations. Il nous a légué une œuvre d'environ 560 tableaux et dessins, dont la majorité se trouve dans des collections privées. Disparu trop tôt, brutalement, c'est une perte cruelle pour certains de ses amis impressionnistes.
Des temps incertains.
Ce début d'année 1848 est marqué par un mouvement révolutionnaire conduisant le roi Philippe Ier à abdiquer et à s'enfuir en Angleterre. Cette révolution française du 22, 23 et 24 février met donc un terme à la monarchie. Ainsi, une seconde république est proclamée dès le 25 février. À cette époque troublée, Céleste Dauphren est enceinte de son premier enfant. Née le 30 octobre 1819, son père est avocat à Lisieux en Normandie, son grand-père notaire également dans cette même ville. Son mari, Martial Caillebotte, né le 8 avril 1799, a été veuf par deux fois auparavant, d'Adèle Zoé Boissière, qui meurt quatre jours après le décès de leur fillette Léonie de 6 ans, le 8 décembre 1836. Il reste seul avec son fils de 2 ans, Alfred. Puis, Martial se remarie en 1843. Un fils, Max, né le 5 janvier 1844 et décède le 6. Sa femme meurt le 12 janvier. Pour la troisième fois, le 14 septembre 1947, il se marie alors avec Céleste Dauphren. Il est originaire de Domfront en Normandie aussi. Martial appartient à une famille aisée d'industriels, commerçants en tissu, plus exactement en draps et couvertures pour l'armée. L'entreprise fut créée par l'arrière-grand-père, Pierre Caillebotte, qui fait affaire dans la toile. La société, le lit militaire, est installée à Paris. Martial commercialise ainsi, lit, plaide pour l'armée française. La famille Caillebotte habite alors au 160 rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10e. De son premier mariage avec Adèle Boissière, Martial a déjà un fils, Alfred, né en 34, qui deviendra prêtre en 58. Il sera missionné pour fonder l'église Saint-Georges de la Villette, puis sera curé de Notre-Dame de Lorette. Il décédera en 96. Mais revenons en 1848, en plein été. Ce 19 août, Gustave pousse son premier cri dans une famille de la grande bourgeoisie normande. Un peu plus de 2 mois auparavant, c'est Paul Gauguin qui a ouvert aussi les yeux à Paris. Tous deux ne savent pas encore que la peinture guidera leur vie et qu'ils se rencontreront aux expositions de 1880 et 82. À ce propos, le nouveau gouvernement décrète qu'un jury élu, dorénavant, choisira les tableaux à exposer au salon officiel. Suivant certaines sources, en 1850, il est noté que les Caillebotte déménagent au 152 de la même rue dans une belle demeure dotée d'un jardin. En réalité, c'est une modification cadastrale, le numéro 160 devenant le 152, qui a laissé penser à un déménagement. Les enfants vont y passer une jeunesse heureuse et insouciante. En 1851, Céleste accouche le 27 janvier d'un second fils, René, puis un troisième, Martial, 2 ans plus tard, le 7 avril 1853. Entre-temps, le régime politique a changé. La Seconde République est abolie par le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, alors président. Le Second Empire est établi 1 an plus tard, le 2 décembre 1852, et Louis-Napoléon devient alors Napoléon III, empereur des Français. Les dépenses pour l'armée napoléonienne vont ainsi participer à l'essor et à la prospérité de l'entreprise Caillebotte.
Une belle acquisition.
Martial Caillebotte père achète le 12 mai 60 aux héritiers de Madame Biennois, veuve d'un orfèvre de l'Empire. Un beau domaine du XVIIIe siècle, meublé, à Hyères. Cette propriété est située au bord de la rivière du même nom, en Seine-et-Oise. La famille va passer dorénavant tous les étés à la campagne, au 6 rue de Concy, sur un fief de 11 hectares 23, entouré au nord par l'Hyères au parcours tortueux. Le cours d'eau est jalonné sur son trajet, de lavoirs, d'embarcadères, de moulins à eau, d'écrevissières, de ponts. Autant de modèles chers au jeune Gustave qu'il peindra dès 72. Il débutera ici sa passion pour les plaisirs nautiques. Le domaine comprend de nombreuses dépendances. À l'ouest, un jardin potager, ceint de hauts murs, un jardin d'agrément, un autre spécialement dédié aux roses. Au nord, existe un endroit où l'on peut converser sur des bancs de pierre autour d'une fontaine, l'Exèdre. Dès 1863, M. Caillebotte y ajoute une chapelle, un pavillon, le chalet suisse et une volière en rotonde.
Déménagement.
Le patrimoine immobilier des Caillebotte va encore s'agrandir. En 1866, devenu juge au tribunal de commerce de la Seine, Martial fait édifier un hôtel particulier au 77 rue de Miromesnil, à l'angle de la rue de Lisbonne. La famille emménage en novembre 1867 dans ce quartier haussmannien de l'Europe, près du boulevard Malesherbes. C'est un immeuble de 2 étages, avec un grenier servant d'atelier de peinture pour Gustave. Une entrée existe aussi par le 15 rue de Lisbonne.
De jeunes années studieuses.
Le jeune Gustave poursuit une scolarité sans heurts et possède déjà des dons pour le dessin. Il entre au lycée Louis-le-Grand pensionnat de Vanves, le 6 octobre 1857, où il excelle dans le domaine littéraire. Il fait sa communion le 26 avril 1860 et obtient son diplôme de bachelier en droit. Appelé à faire son service militaire dans l'unité d'infanterie de Rouen, son père l'en exempte en lui achetant un remplaçant de juin 1869 à juin 1870. Gustave en profite alors pour passer sa licence de droit qu'il décroche avec succès l'été suivant.
Voyage en terre de couleur, les impressionnistes.
L'enthousiasme de cette réussite est bientôt terni par la déclaration de guerre de Napoléon III à la Prusse. Celle-ci se terminera par la défaite de Sedan et la capitulation de l'empereur le 1er septembre 1870. La Troisième République sera proclamée le 4 septembre, avec Mac Mahon pour président. Mais pour l'heure, en ces temps agités, Gustave est enrôlé dans la garde mobile de la Seine pour défendre Paris jusqu'au 7 mars 1871, date du début de la Commune. Son frère Martial, trop jeune, n'est pas mobilisé. Il est inscrit au Conservatoire national de Paris, au cours de piano, sous la direction de M. Marmontel-Antoine. Le domaine d'Hyères est squatté par l'armée française. Gustave en profite pour exécuter 2 petites œuvres, Hyères, la colonnade du Cazin, et Militaires au bois. Une fois la guerre terminée, il part avec son frère René et son demi-frère Alfred, en Suède et en Norvège. De retour à la vie civile, il abandonne alors le droit et tout parcours juridique pour la peinture, en accord avec ses parents. Il entre donc dans l'atelier de Léon Bonnat pour y apprendre le métier de peintre et préparer le concours d'entrée des Beaux-Arts.
Mais qui est ce Léon Bonnat ?
Né en 1833, il étudie la peinture en Espagne et en Italie avant de devenir élève de Léon Cogniet à Paris. Reconnu comme peintre d'histoire et portraitiste officiel, il est professeur à l'école des Beaux-Arts et rencontre Edgar Degas en 1855. Membre du jury du salon officiel, il inculte à ses élèves un apprentissage rigoureux du dessin académique. Bonnat est estimé de ses apprentis et son atelier est recherché dans tout Paris, comme celui de Fernand Cormon. Caillebotte y rencontrera Degas, lui aussi, issu de la grande bourgeoisie. Toulouse-Lautrec et Edvard Munch fréquenteront son atelier. Bona est aussi collectionneur de tableaux de Tiepolo, Rubens, El Greco, Goya, Ingres, que nous pouvons retrouver au musée de Bayonne, sa ville natale.
Escapade.
En 72, Gustave voyage cette fois en Italie à Naples avec son père. Ils vont rendre visite à la famille de Nitis, dont Gustave s'est lié d'amitié avec le fils Giuseppe, né en 46. Giuseppe de Nitis deviendra par la suite un célèbre peintre mondain. Caillebotte profite de ce séjour pour nous laisser une première toile.
Une institution prestigieuse.
Après avoir fait son apprentissage chez Bona et y préparé son admission à l'École nationale et spéciale des beaux-arts, Gustave est reçu 46e au concours d'entrée le 18 mars 1973. Ainsi, il intègre l'école tout comme Degas et Renoir avant lui. Il y sera assidu pendant une année environ, sous la houlette des peintres Jérôme, Cabanel, Pils et Yvon, les professeurs d'ateliers de peinture. Héritière de l'Académie royale de peinture et de sculpture, l'institution dispense un enseignement axé essentiellement sur le dessin, l'anatomie, l'étude du modèle vivant, la copie de tableaux anciens. La couleur, les scènes modernes de la vie quotidienne, de plein air, éclatantes, claires, en sont bannies. Ce parcours académique conduit au concours pour le prix de Rome, donnant ensuite le privilège d'étudier à la Villa Médicis en Italie. La reconnaissance pour le salon officiel en est ainsi grandement favorisée. Mais pour quelques élèves, cette discipline stricte est étouffante. Souhaitant se libérer de ces contraintes, certains, à l'instar de Degas et de Renoir, ont arrêté avant l'heure.
Rébellion.
En 73, alors que Caillebotte étudie sérieusement à l'école, quelques artistes peintres, en réaction contre le salon officiel et les diktats moralisateurs des beaux-arts, se regroupent pour fonder la société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs, graveurs. Ainsi, Monet, Renoir, Sisley, Degas, Cézanne, Pissarro et Morisot se rassemblent-ils afin de pouvoir exposer et vendre leurs œuvres librement sans l'assentiment d'un jury. Leur première exposition a lieu le 15 avril 1974 chez le photographe Nadar au 35 boulevard des Capucines à Paris. Gustave Caillebotte se rend très certainement à cette manifestation sous l'impulsion de Degas. Comme rapin, c'est-à-dire apprenti peintre, c'est une visite à ne pas manquer. Sa participation aurait même été imaginée d'après des notes d'Edgar Degas. Il est fort probable que Gustave s'est déjà lié avec les peintres dissidents et va débuter sa collection de tableaux peu après. En cette année 74, Martial Caillebotte fait édifier un étage supplémentaire à son hôtel particulier, afin de créer un véritable atelier de peinture à Gustave. Allons de ce pas y faire un tour, découvrir les premières œuvres de notre apprenti.
Du côté du musée.
De son séjour en Italie en 72, il exécute un tableau de style réaliste, Une route près de Naples. C'est une vue au ton clair où se détache un cheval noir à l'arrêt tirant une calèche sur une route ensoleillée blanchâtre. La perspective traditionnelle de la chaussée nous conduit vers une montagne bleutée dans le lointain. Gustave représente son premier atelier, sans doute situé rue de Miroménil, dans Intérieur d'atelier au poil, datant de 72-74. Nous y apercevons un coin de pièce avec son traditionnel petit poil rond, déjà vu dans l'étoile de Frédéric Basile. Un petit meuble sur lequel se trouve la statue de l'écorché de Houdon, des châssis à terre, quelques tableaux accrochés au mur brun, des estampes apportant une note d'éclat, influence du Japon, plusieurs poteries meublent cet atelier. Le regard est de suite attiré vers la touche claire de la statue située dans l'angle de cette pièce, au ton sombre, pas très éclatant. Femme à sa toilette, femme nue étendue sur un divan et autoportrait au chapeau de paille datent de 1873 et appartiennent à des collections privées. Notre voyage se termine aujourd'hui sur les jeunes années de Gustave Caillebotte. Je vous invite à le poursuivre très prochainement ensemble afin de découvrir ses passions et sa première exposition. Voyage en terre de couleurs, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation Pascal Laurière.